VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition des 18h30, temps universel de ce 6 novembre 2019. John Lyndon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. En Guinée-Bissau, la CDAO donne 48 heures au gouvernement de Faustino Imbali pour démissionner ou subir de lourdes sanctions. Dans le nord-est de la RDC, au moins 10 personnes tuées dans une attaque attribuée aux rebelles ADF près de Beni. Ouverture demain en Belgique du procès de Fabien Néresté, ancien fonctionnaire rwandais accusé de génocide. Le Sénégal réitère l'interdiction de la promotion des produits de dépigmentation de la peau. Albert Tewodjere n'est plus l'intellectuel béninois, s'est éteint à presque 90 ans. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné 48 heures pour démissionner sous peine de lourdes sanctions au président sortant, au gouvernement donc de Faustino Imbali, le président sortant José Mario Vaz a limogé le 28 octobre le premier ministre Aristide Gomez et son gouvernement avant de nommer le lendemain Faustino Imbali avec une équipe de 17 ministres et 14 secrétaires d'État. La CEDEAO a estimé que cette mesure est illégale. Blaise Diblo, représentant à Bissau de la CEDEAO.
La mission d'évaluation de la situation politique du 3 novembre, le comité ministériel lance une dernière fois un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de M. Faustino Imbali, afin qu'il démissionne et les invite à prendre leur distance par rapport à toutes les initiatives visant à compromettre les prochaines élections présidentielles et à porter atteinte aux institutions légales de la Guinée-Bissau. Les gens qui seraient tentés ou qui sont dans le gouvernement disposent encore de 48 heures pour faire connaître leur décision de démission. Au-delà du jeudi 7 novembre, ils seront passibles de lourdes sanctions qui seront prises à leur encontre par le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, au Niger, le 8 novembre 2019.
Blaise Diblo, représentant à Bissau de la CEDEAO. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués dans une attaque attribuée à la milice ougandaise des forces démocratiques alliées au nord de Beni, dans l'est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Donat Kibwana, administrateur de Beni, les ADF ont fait incursion à Kokola et ont fait usage d'armes blanches et d'armes à feu. La semaine dernière, l'armée a annoncé des opérations d'envergure dans la région de Beni, théâtre de massacres de civils et d'une épidémie d'Ebola déclarée en août 2018. Les ADF sont coincés par le feu de l'armée congolaise, c'est ainsi qu'ils cherchent à semer la terreur au sein de la population, a déclaré le major Mac Azukai, porte-parole de l'armée. La société civile a regretté que les opérations militaires se concentrent autour de la ville de Beni, qui abrite aussi une base de la MONUSCO. Nous saluons le lancement des opérations militaires, mais nous demandons que cela se fasse sur les trois axes, centre, sud et nord, a affirmé Teddy Kataliko de la société civile. Un rapport des Nations Unies propose un retrait sur trois ans des 16 000 casques bleus déployés en RDC. La MONUSCO continuera de protéger les agglomérations et la population congolaise, a indiqué le général Léon Kasonga, porte-parole de l'armée.
D'ailleurs, le Conseil de sécurité doit se prononcer en décembre sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le Sénégal en guerre contre les produits de dépigmentation. Le pays vient de rappeler aux médias audiovisuels qu'il leur est interdit de diffuser de la publicité des produits de dépigmentation de la peau, une pratique très prisée par beaucoup de femmes au Sénégal, malgré le danger qu'ils représentent pour la peau. Les explications d'Irénée Herman Ongbo.
La diffusion par les médias audiovisuels de messages publicitaires relatifs aux produits de dépigmentation de la peau est interdite par la loi, a indiqué le Conseil national de régulation de l'audiovisuel dans un communiqué rappelant une loi votée en 2017. Il exige l'arrêt de la diffusion de tous les messages publicitaires relatifs à ces produits. Les crèmes éclaircissantes pour la peau à base de corticoïdes et d'agents dépigmentants très puissants continuent d'avoir un succès au Sénégal, où de nombreuses femmes les utilisent malgré la mise en garde régulière des spécialistes de la santé. Ils alertent régulièrement sur les risques de cancer de la peau, d'hypertension et de diabète avec l'utilisation de tels produits. Ces agents de santé saisissent aussi souvent l'occasion des débats pour déconseiller cette pratique, appelée local marexal, s'éclaircir la peau en langue wolof. De nombreuses femmes affirment recourir au rexal parce que, selon elles, les hommes préfèrent celles qui ont la peau claire.
Au Zimbabwe, des fonctionnaires se sont rassemblés dans la capitale Harare aujourd'hui pour réclamer une revalorisation de leur salaire rongé par l'inflation galopante sous l'étroite surveillance de policiers plus nombreux. D'après la Confédération des syndicats du service public, les gens ont eu peur de venir à la marche et n'ont pas les moyens non plus. Le régime d'Emmerson Mnangagwa qui a succédé à Robert Mugabe est accusé d'avoir réprimé à maintes reprises des manifestations, notamment contre l'augmentation du coût de l'essence en janvier dernier. Et puis la Cour pénale internationale pense que Saif al-Islam Kadhafi, un fils de Muammar Kadhafi, se trouve à Zindan en Libye. C'est ce qu'indique ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU la procureure Fatou Bensouda. Son bureau a-t-elle avancé à des informations crédibles sur la localisation actuelle de trois suspects visés depuis longtemps par des mandats d'arrêt de la CPI, parmi lesquels le fils de Muammar Kadhafi, dont le sort restait jusqu'à présent incertain. Ouverture demain à Bruxelles du procès d'un génocidaire présumé, Fabien Néreté, ancien haut fonctionnaire rwandais de 71 ans, répond de 13 meurtres et de 3 tentatives de meurtre entre avril et juillet 1994 au Rwanda. Abdourahmane Dia.
Après la constitution du jury lundi, la cour d'assises entre demain dans le vif du sujet avec la lecture de l'acte d'accusation. L'interrogatoire de l'accusé doit commencer vendredi. Fabien Néreté se dit innocent mais encourt la prison à vie. Il est accusé notamment de crime de génocide, une qualification retenue pour la première fois, même s'il s'agit du 5e procès en Belgique lié au génocide au Rwanda. Quelques proches de victimes sont appelés à témoigner, parmi eux Martin Beckers, dont la sœur Claire a été assassinée avec son mari, un Tutsi, et leur fille de 20 ans, le 9 avril 1994 à Kigali. Fabien Néreté, en Hutu, était un de leurs voisins. Selon l'accusation, il a fait intervenir des hommes armés pour les empêcher de se mettre à l'abri avec d'autres riverains alors que les massacres avaient commencé. Interpellé en France en 2011, Fabien Néreté comparaît libre à ce procès qui doit durer environ 6 semaines.
Et puis à quelques semaines de la réunion internationale sur le climat, la COP25 prévue du 2 au 13 décembre à Madrid en Espagne, et alors que l'insécurité alimentaire du continent est aggravée par le changement climatique, 3 pays, la Somalie, le Tchad et la Tunisie, ont rejoint mardi la coalition de 35 pays africains sur 54, baptisée 3A, entendez adaptation de l'agriculture africaine. Cette coalition lancée par le Maroc a pour but de porter plus haut les intérêts de l'Afrique et de son agriculture dans les négociations climat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La campagne pour les élections anticipées du 12 décembre a officiellement démarré au Royaume-Uni. Bagassi Koura.
Le ton est donné par le Premier ministre Boris Johnson. Il a comparé son rival travailliste Jeremy Corbyn à Staline et s'est posé en sauveur du Brexit. Il s'est rendu dans la matinée au palais de Buckingham pour rencontrer la reine pour officialiser la dissolution du Parlement dont les divisions jusqu'ici empêchaient la mise en œuvre du Brexit, une sortie de l'Union européenne votée par 52% des Britanniques il y a plus de 3 ans mais qui a déjà été repoussée 3 fois. Puis, il a appelé, dans une déclaration depuis ses bureaux du 10 Downing Street, les électeurs à voter conservateurs pour que, je cite, « le Brexit se réalise ». Boris Johnson affirme qu'il présentera à nouveau son accord de divorce avec Bruxelles devant le Parlement dès le premier jour de sa nouvelle session en décembre, afin que la sortie soit effective en janvier. Il doit tenir dans la soirée son premier grand meeting de campagne dans le cœur du pays, les West Midlands, et reprendra ses thèmes favoris, le Brexit, mais aussi toutes les questions sociales négligées ces dernières années, comme l'éducation, le logement, la santé et la sécurité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et VOAfrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
L'entreprise publique angolaise Sonangol forme un consortium avec 5 sociétés pétrolières internationales, dont Eni, Total et Chevron, pour développer le gaz naturel liquéfié de son usine de Soyo. Le projet aura un coût initial de 2 milliards de dollars et la production commencera d'ici 2022. Eni dirigera le projet et les membres se partageront les coûts en fonction de leur participation. L'usine Soyo pourrait traiter 1,1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour et produire 5,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, ainsi que du propane, du butane et du condensat. La Somalie annoncera en décembre son premier cycle d'octroi de licences de pétrole et de gaz, alors que le pays cherche à attirer de nouveaux investissements après des décennies de troubles civils. Le ministère du pétrole et des ressources minérales veut présenter jusqu'à 15 blocs qui pourraient contenir environ 30 milliards de barils de pétrole. Les nouveaux blocs sont loin de la frontière maritime avec le Kenya, qui fait actuellement l'objet d'un différend à la Cour internationale de justice. Le Ghana retirera 4 licences d'exploration pétrolière à des sociétés qui ne développent pas les actifs. Le gouvernement n'a pas encore notifié les entreprises impliquées, mais il promet de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que ces actifs pétroliers soient développés.
Et Yacouba Ouidraogo nous a retrouvés, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Plus rien ne va entre la CAF et Lagardère Sport.
Oui, Lagardère conteste la décision de l'instance continentale de résilier unilatéralement et avec effet immédiat le contrat d'agence les liant jusqu'en 2028. Ce contrat signé sous le Camerounais Issa Hayatou en 2016 ramenait à la CAF 1 milliard de dollars sur 12 ans. Partant sur l'accord de l'Assemblée générale de la CAF à rediscuter le contrat avec le groupe français, Ahmad et son comité exécutif ont finalement décidé de résilier l'accord. Rien ne saurait justifier une résiliation du contrat et pas davantage l'enquête en cours de la commission de la concurrence du COMESA qui n'a encore rendu aucune décision à publier Lagardère Sport dans un communiqué. Le groupe français dit être prêt à engager toute action pour défendre ses droits et obtenir une complète indemnisation du préjudice qu'elle subirait.
Qualification historique pour un club béninois en phase de groupe de la Coupe CAF.
Les AFC s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération en sortant Génération Foot du Sénégal. Victorieux à l'aller 1-0 à Thiès, les Béninois partaient avec les faveurs des pronostics, mais ont concédé le même score au retour, s'inclinant 0-1 à domicile. 1-1 donc sur l'ensemble des deux matchs, mais c'est finalement à la séance des tirs au but qu'Esaé l'a remporté avec 4 tirs réussis contre 3. Esaé est le premier club béninois qualifié pour la phase de groupe en Coupe CAF. Il est la dernière formation qualifiée et rejoint ici Oroya, Al-Nasr, Al-Masri, Nouadhibou, Enimba, Zanaco, DC Motoma, Pembe, Rangers, Bitvest, Wits, Joliba, AC, FC San Pedro, Berkane, Pyramide, Assania, Agadir et Paradou. Le tirage au sort aura lieu le 10 novembre.
Et on reparle de Carlos Vela, élu meilleur joueur en MLS.
L'international mexicain, meilleur buteur de la MLS avec le Los Angeles FC, 36 buts, a reçu le trophée de meilleur joueur 2019 du championnat nord-américain de football devant le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Carlos Vela, 30 ans, a été honoré au cours d'une cérémonie organisée à Los Angeles. Grâce à ses 2 buts et une passe décisive, le Los Angeles FC a battu les Los Angeles Galaxy en play-off, mais l'équipe de Vela s'est inclinée en finale de conférence Ouest devant les Seattle Sounders, 3-1, et ne disputera pas la finale du championnat qui aura lieu le 10 novembre à Seattle.
Enfin, NBA, LeBron voit triple et les Lakers renversent Chicago.
Et oui, avec 30 points, 10 rebonds et 11 passes décisives, LeBron James a signé son 3e triple-double consécutif pour permettre aux Lakers de venir à bout de Chicago 118 à 112. De son côté, Miami qui a perdu 89 à 109 face à Denver, s'est fait doubler au classement par Boston qui a infligé à Cleveland sa 5e défaite en 7 matchs. Atlanta est resté muet chez lui face aux San Antonio Spurs 108 à 100. Les Charlotte Hornets sont passés par la case prolongation pour battre les Indiana Pacers 122 à 120. Ailleurs, les 24 points de Shai et les 20 de Chris Paul ont permis à Oklahoma City de dominer Orlando 102 à 94.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour, et on commence par le Tchad. Le Tchad, où les organisations de la société civile qualifie d'assassinat l'incident survenu le 4 novembre dernier lors du passage du cortège du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, incident qui a causé la mort d'un citoyen et provoqué de nombreuses réactions. Voyons cela dans ce reportage de notre correspondant en Djamina, André Kodmadjingar.
Monsieur Haroun Kabadi, honte à lui et il doit démissionner.
C'est le ras-le-bol de jeunes de l'Association pour l'animation et le développement rural. Ils se sont réunis sur le lieu du drame, là où le jeune Matéa Manayel Bonheur, diplômé sans emploi, avait reçu lundi dernier deux balles mortelles à l'abdomen. L'émotion était à son comble, mais ils ont été dispersés quelques minutes après par la police. Grâce à Elta, porte-parole de l'association.
L'association demande que ce drogué tueur réponde ses actes devant le tribunal. Nous demandons au président de l'Assemblée de donner une bonne éducation à ses approchés afin qu'il sache qu'il est le représentant du peuple et non le tueur du peuple.
Dans un document publié sur la toile, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, déplore cette mort brutale du citoyen à fleur de l'âge. Il dit avoir compris et partagé la douleur profonde des parents, amis et connaissances de la victime, auxquels il tient à exprimer ses condoléances les plus sincères. Le président du collectif des ADH, Maître Nujutolum Salomon, exige que les auteurs soient traduits en justice.
Les éléments de sécurité de M. Kabadi ont tiré à bout portant en juillet 2018 sur un citoyen. Heureusement, ce citoyen s'en est sorti avec une blessure, mais pour M. Bonheur, le sort a décidé autrement. Donc, c'est un acte qui ne devrait pas être perpétré dans un état de droit. Ôter la vie d'un jeune diplômé qui fait le travail de clandomane pour subvenir à ses besoins, c'est un acte extrêmement grave et nous voulons que justice soit rendue au nom du peuple tchadien.
Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et avocat au barreau du Tchad, Maître Midaï Gerimbaï, la justice doit se saisir pour faire la lumière sur cet assassinat.
Quand un crime de ce genre se passe au vu et au su de tout le monde, a-t-on besoin de déposer une plainte? Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Les autorités judiciaires doivent se saisir de l'affaire. Le président de l'Assemblée lui-même, par respect à son peuple, par respect à sa profession et par respect à son rang, devrait mettre à la disposition de la justice les gens qui ont commis ces forfaitures-là, à demander à ce que la justice puisse dire le droit et réparer le tort qui a été commis à la famille de ce jeune.
Le parquet d'instance de N'Djamena informe qu'une enquête judiciaire est ouverte. Quatre personnes sont actuellement placées à garde à vue. Elles sont soupçonnées de meurtre et complicité de meurtre, alors que plusieurs sources ont rapporté à VOA Afrique que des individus non identifiés s'organisent pour venger la mort du diplômé sans emploi abattu par les gardes du président de l'Assemblée nationale. André Kodumatingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
De mort, on en parle également au Bénin. Albert Tewodjere n'est plus. Ce grand intellectuel et homme politique béninois est décédé ce mercredi à 4 jours de ses 90 ans qu'il comptait célébrer par l'organisation d'une conférence sur la paix et le dialogue social. Ceci au regard de la situation sociopolitique au Bénin. De Cotonou, la correspondance de Ginette Fleur à Dandé.
Le renard de Diregbi s'en est allé alors que les espoirs d'une guérison l'accompagnaient lorsqu'il avait été admis au service des urgences. Albert Tewodjere fut l'un des artisans de la transition démocratique au Bénin en 1990. Pierre Metenhoué est historien. Il revient ici sur ce qu'il garde du professeur Albert Tewodjere.
Il a fait du bien à beaucoup de gens dans ce pays. Je sais qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la personnalité qu'il a été. Il était devenu une espèce d'expert en matière d'élection présidentielle. Chaque fois qu'il y avait élection, des gens le consultaient, disaient qui va être élu. Et il annonçait ses propositions et souvent, sauf la dernière fois, eh bien, c'était ce qu'il annonçait qui arrivait.
Il était à la fois professeur, intellectuel et homme politique. Il était aussi homme de médiation. D'ailleurs, durant des années, il a été nommé médiateur de la République par le président Yahya Boni, auteur de nombreux livres dont les plus remarqués furent L'Afrique révoltée, publié en 1958 et La pauvreté, richesse des peuples en 1978, ouvrage culte dans les milieux tiers-mondistes en Afrique, Albert Evoidray, devenu Frère Melchior ces dernières années, s'est longtemps battu pour la paix. D'ailleurs, il était convaincu que la révision de la Constitution sans un consensus est une brèche vers une crise sans précédent.
Si nous devons changer la Constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver les bases du consensus. Il faut se retrouver pour en discuter, pour dialoguer, pour arriver à ce que demain soit meilleur sur la base des expériences vécues. Mais tous ensemble, pas quelques-uns. Nous voulons le bonheur de tous et non de quelques-uns.
Albert Evoidray n'a souvent pas été tendre avec le régime actuel. Il s'est allié aux forces de la résistance pour dénoncer la dégradation du climat social, l'exclusion de l'opposition et le climat des affaires de plus en plus difficile.
Ce pays, avec ses institutions, appartient au peuple qui habite. Lorsque le gouvernement qui l'exerce, lorsqu'il sera là, le gouvernement qui est là, lorsque il ne pourra plus de supporter des injustices, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel de le censurer ou son droit révolutionnaire de le renverser.
Albert Evoidray laisse derrière lui un héritage politique et intellectuel immense et un engagement sans réserve au service de la paix. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élections partielles hier dans 4 États américains. Pour la première fois en 25 ans, les démocrates ont repris le contrôle des deux chambres de l'Assemblée de la Virginie. Dans le Mississippi, le candidat républicain Tate Reeves a remporté le poste de gouverneur. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Washington l'analyste politique James Caesar.
Les élections locales pendant ces années-là, ils sont en effet locales. Donc le problème est de déterminer quelle est la tendance nationale et quelle est la tendance plutôt locale. Je dirais que ces résultats-là sont plutôt locaux, surtout quand on considère la course pour un Kentucky. Là, je trouve que les raisons pour la défaite du gouverneur républicain sont plutôt des raisons locaux. Alors, le résultat était très étroit, mais quand même, il n'était pas lui-même populaire. Et vous trouvez que les autres élections, pour les autres positions en Kentucky, les résultats sont pour les républicains. En Virginie, alors c'était une course pour la branche législative. Là, c'est ce qu'on trouve que Virginie est en train d'évoluer. Et de plus en plus, c'est un État démocrate. Donc, ce sont pour des raisons démographiques, la croissance de la région autour de Washington, etc. Alors, pour l'avenir, on peut dire que la tendance en Virginie sera pour les démocrates. Finalement, en Mississippi, là, le candidat pour le gouverneur républicain, il a emporté la victoire.
Il y en a qui veulent attribuer cette défaite au président Trump, notamment. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça joue un rôle, bien sûr. Et Trump est allé à Kentucky pour dire qu'il faut soutenir le candidat républicain. Donc, il y a une dimension nationale. Mais si on suit les sondages, etc., la politique locale, la politique locale prime dans ces années sur la dimension nationale. Ça, c'est assez sûr. Surtout en Virginie, où ça n'a rien à voir vraiment avec la direction générale du pays. C'est une évolution, comme j'ai dit, de la tendance de l'État de Virginie.
Dans quelle mesure ces résultats des élections locales peuvent influencer les élections générales?
Vous parlez de l'élection l'année prochaine?
C'est ça.
Oui, les journalistes parlent un peu de ça, mais finalement, je n'ai pas l'impression que ça va jouer un rôle très, très important. Comme je disais, le résultat en Kentucky est déterminé par la popularité du gouverneur. Et Kentucky va certainement, l'année prochaine, va certainement voter Trump. Mississippi va voter Trump et Virginie va certainement voter pour le candidat démocrate. Donc, ces trois États, le rôle pour l'année prochaine est déjà fixé.
James Caesar, analyste politique à Washington. We'll be right back. Une musique dont vous connaissez sans doute l'auteur, en tout cas lors d'une visite ce mercredi à la VOA ici à Washington. Le chanteur malien Salif Keïta a commenté certains titres du dernier album de sa carrière, Un autre blanc. Depuis longtemps engagé dans la lutte contre la discrimination envers les personnes albinos, il avait donné un grand concert à Fana au Mali en hommage à Ramata, une petite fille albinos de 5 ans victime d'un crime rituel. Dans cet entretien avec Nathalie Barge, Salif Keïta revient sur son annonce de l'an dernier, disant mettre un terme à sa carrière musicale.
Je sais que c'était magique ce concert parce que c'est une leçon qu'on a donnée aux criminels. Et il y avait à peu près 60 000 personnes dans le stade. Et vraiment, c'était une réussite. C'était une chiffre qu'on a donnée aux criminels qui croient que la vie s'arrête là. Non, non, non. C'était vraiment quelque chose de grandiose.
Alors justement, au niveau de l'albinisme, pendant toutes ces années, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des progrès?
Il y a eu beaucoup de progrès. D'abord, les albinos ne s'assumaient pas parce qu'ils ne se fréquentaient pas, ils ne s'aimaient pas. Et maintenant, ils se voient, ils se consultent, ils font des associations et ils se battent pour leur cause commune. Et ça, c'est une grande réussite. Et d'autre part, je crois qu'il y a eu quand même les Nations Unies qui ont voté le 13 juin comme journée de l'albinisme. Donc ça, c'est un grand pas, une grande chance pour nous. Et dans le monde entier, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rendre la vie paisible des albinos.
Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie, on connaît bien ce pays, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Mm-hmm. Une très belle vidéo, vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. Mm-hmm. C'est une chanson contre la guerre, bien entendu, mais pas seulement, on imagine, en Syrie, partout dans le monde.
C'est partout dans le monde. Mm-hmm. Je voulais parler de la guerre de partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes les mains, dans les mains des enfants en train de chercher des abris. Vraiment, si. On ne peut pas passer, on ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde.
À propos de femmes, Itarafo, c'est un autre morceau de votre album.
Ouais.
Angélique Kidjo y a participé.
Ouais.
Quelle est cette histoire, l'histoire de Itarafo?
Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à maman, c'est à cause de cet enfant que ton mariage risque de casser. Donc, débarrasse-toi de ça, de cet enfant, comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas.
C'est en rapport à votre histoire?
Ouais. Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Moi, je préfère cet enfant à d'autres choses. Et donc, pour ne citer que mon cas parmi tant d'autres, il y a beaucoup de divorces entre les albinos, femmes et leurs maris à cause des enfants, ou bien et les femmes à cause des albinos. Et ce problème... J'espère qu'on arrivera à gérer ça un jour.
Un extrait de l'entretien avec Salif Keïta ici à la VOA Washington que vous pourrez retrouver prochainement sur notre site internet et dans Le Monde Aujourd'hui télé. C'est avec Talé, une autre composition de Salif Keïta, qu'on se quitte. Cette édition a été mise en onde par Michel Joseph, qu'assistait Ali Abdoul. Dan Crafton était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.